De notre côté, on avait notre troisième garçon qui commençait, alors ça fait toute une différence. On n'a plus qu'un à la maison le matin. Et c'était rigolo parce que le lundi matin, il n'a pas eu l'école, il a commencé l'après-midi. Il était très très déçu. Hein. C'est bon signe quand les enfants sont déçus. Et puis son grand frère a eu la bonne idée de lui dire, mais tu sais, profite de ta dernière matinée parce qu'une fois que tu commences l'école, ça n'arrête pas jusqu'en 11e. Puis après, tu fais une formation professionnelle. Puis après, tu fais un travail. Et puis, tu arrêtes à 65 ans à la retraite. C'était très efficace. Il a profité de sa matinée. Il a fait encore le bébé. Il a demandé son lait, etc. Et il est heureux d'avoir commencé. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent, peut-être il y en a quelques-uns, des visages un peu moins connus. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut aussi les applaudir et leur souhaiter la bienvenue? Et ce matin, on va continuer cette série intitulée Un voyage, une destinée. Cette série, elle a pour but de nous encourager à aller plus loin, à désirer plus, à ne pas rester dans le lieu du petit fruit, c'est ce que nous avions vu dans ce premier message. Mais comme Abraham, nous sommes appelés à quitter nos sécurités pour entrer dans notre destinée. Alors dans ce voyage, Dieu, par son esprit, il veut nous guider, il veut te guider, il veut te donner une direction qui va te conduire dans des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. C'est Éphésiens 2:10. Et c'est en saisissant finalement chaque occasion, hein, toujours à l'écoute de Dieu, toujours à l'écoute de l'Esprit, petit à petit qu'on découvre vraiment quel est notre appel, quelle est notre destinée. Et c'est un chemin qui est juste passionnant. Donc il ne s'agit pas juste d'attendre d'être arrivé à quelque part, mais c'est se mettre en route et déjà faire quelque chose. Alors moi je trouve que c'est juste génial d'avancer. Sans avoir, je pense que je suis peut-être tout seul dans ce cas-là, mais moi je trouve que c'est super d'avancer sans savoir exactement où je vais. Je trouve que c'est assez merveilleux de se dire, mais on va là où Dieu nous montre. On avance petit à petit, et puis ben oui, parfois il y a des imprévus dans la vie est faite d'imprévus qui peuvent devenir des opportunités et qui vont nous faire grandir. Mais imaginez une vie où tout serait planifié. Ça, c'est le rêve d'un bon Suisse. Une vie où tout serait planifié. Mais ce n'est pas le rêve du disciple de Jésus. Pour un disciple, ce serait ennuyeux. Suivre Jésus, c'est plein de surprises. Et ça nous pousse dans notre destinée. Alors, si vous avez l'impression de vous ennuyer dans votre vie chrétienne ce matin, j'aimerais juste vous encourager à peut-être vous remettre en route ou bien à dire à Dieu, je suis disponible, hein, je suis prêt, fais quelque chose de moi. Je veux entrer dans les œuvres que tu as préparées pour moi. Et puis écoutez ce qu'il va vous répondre, parce qu'il parle. Et je vous promets que ça ne va pas être ennuyant longtemps. Une vraie promesse, c'est prophétique. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager avec une vérité biblique qui devrait être la base de notre motivation. Et le titre de mon message, c'est « Au cœur du voyage ». Et j'aimerais vous parler de changement. Enfin, je pourrais vous parler de changement. Je pourrais vous parler, et je le fais souvent, hein, vous parler de mise en route, comme je l'ai dit, de destinée. Je pourrais vous parler ce matin d'une église contemporaine, c'est des choses qu'on aimerait vivre, d'une église pour aujourd'hui. Je pourrais vous parler d'une église tournée vers l'extérieur, prête à se laisser élargir, comme on a entendu la semaine dernière. Mais il y a quelque chose qui doit venir encore percuter notre cœur. Quelque chose qui est à la base de la vie de disciple et qui est malheureusement, mais on va dire humainement, c'est normal, très impopulaire et à contre-courant. Nous avons parlé du voyage de Paul, de l'apôtre Paul, de son écoute, de son obéissance, de sa détermination à amener l'évangile. Mais s'il faisait tout cela, c'est parce que lui, son cœur avait été percuté par la puissance de l'œuvre de l'amour de Jésus. L'œuvre d'amour que Jésus a accomplie à la croix. Il était percuté par ça. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. On a besoin d'être percuté encore. Et je vous pose la question, mais quel est l'impact de l'œuvre de Jésus dans votre vie? Quel est l'impact de l'œuvre de Jésus dans ma vie? Alors, on peut dire plein de choses, on connaît des choses. Ah, peut-être que vous pouvez répondre. Quel est l'impact de la vie, de l'œuvre de Jésus à la croix dans votre vie? Il y a beaucoup besoin d'enseignement hein, dans cette église. Ouh là 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 là. Ben voilà, merci Damaris. Ah, les choux, elle me soutient à fond. On est sauvés. Je suis sauvé. La persévérance, ok. La paix réconciliée, juste. Grandir, c'est bien. On n'a plus peur. La force. Je suis délivré, pardonné, aimé, sauvé, né d'en haut, voilà. Ok. Des témoins, c'est juste. Merci, c'est bon. Si on reste juste sur l'œuvre de la croix, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que les premiers mots qui nous viennent, c'est « je suis sauvé hein, ». J'ai reçu la vie éternelle, c'est quand même là-bas, c'est le salut. Je suis pardonné, hein, c'est ce qu'on vit aussi dans... qu'on revit à la Sainte Cène. Je suis libéré, je peux m'approcher de Dieu. Hein, je peux m'approcher, je suis justifié par Christ. J'ai reçu la vie, j'ai l'Esprit qui habite en moi. Et tout cela est vrai, est juste. Mais vous savez ce que Paul a répondu ou répondrait à cette question? Si je lui posais la même question, il dirait, l'impact de l'œuvre de Jésus dans ma vie, c'est que je suis pressé par son amour, et je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Ça, c'est l'œuvre de Jésus dans la vie de Paul, et c'est ma prière pour nous ce matin. Et c'est ça qu'il va dire dans la lettre, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, on va le lire ensemble. Cette lettre, c'est une lettre assez spéciale, où c'est peut-être la plus personnelle de l'apôtre Paul. Là où il dit vraiment son cœur, où il dit ce qui vibre en lui, la raison de pourquoi il fait le ministère, ses craintes, ses peurs, mais aussi ses encouragements. C'est tout ça qui dit dans cette lettre aux deux Corinthiens. J'ai dit, ça va? J'ai pas parlé plus fort, moi. Hein. Alors, on va lire ensemble ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, si vous avez vos Bibles avec vous. Autrement, je vais le mettre sur l'écran, les versets 14 et 15. Car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Et puis au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc Paul était pressé par l'amour de Christ. C'est pour ça qu'il faisait ce qu'il faisait. C'est poussé par l'amour de Christ. Il n'était pas stressé, comprenez-moi bien. Il n'était pas non plus pressé comme un citron, hein, mais il était juste boosté. Et en annonçant l'évangile, Paul ne faisait donc pas un devoir religieux. Hein, parfois, on a l'impression que c'est un devoir religieux. Puis oh, purée, il faudrait encore être témoin. Encore annoncer quelque chose. Non, Paul, il ne faisait pas ça comme ça. Il ne faisait pas ça non plus parce que c'est bien quand même de leur donner un petit peu par charité, comme ça. La charité chrétienne, on pourrait dire. Non, ce n'est pas ça non plus. Il avait pleinement saisi ce que signifiait donner sa vie par amour. Jésus était mort par amour, ou est mort par amour. Hein, la parole nous dit, vous connaissez ce verset très bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Donc pour cela, Jésus est mort, d'une mort injuste. Il est mort torturé, flagellé, cloué sur une croix, par amour. Et Paul était pressé par cette réalité-là. L'amour d'un homme qui a donné sa vie dans la souffrance la plus intense, pour tous. Non juste pour lui-même, mais pour tous. C'est ça qui habitait Paul. C'est ça qui habitait Paul et qui l'a amené à donner cette... vérité fondamentale, celui qui vit grâce à Christ est appelé à ne plus vivre pour lui-même, mais pour Christ. Alors je vous l'ai dit, c'est la base de la vie de disciple. C'est contraire, bien sûr, à la pensée du siècle. Aujourd'hui, on nous pousse à accomplir nos rêves, à penser à nous, à s'accomplir, à avoir du succès, à réussir financièrement, etc. etc. Mais le cœur du voyage avec Christ... ce qui nous permet vraiment d'entrer dans notre destinée, c'est de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui seul. Merci pour le Amen. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on parle de notre destinée. Je vous ai dit un voyage, une destinée, mais c'est notre destinée. Mais en fait, cette destinée, elle est que en Christ. Autrement dit, sans Christ, il n'y a pas de destinée. Alors, on aime bien dire à Dieu, je te donne ma vie. Mais si on lui la donne, elle lui appartient, les amis. Elle lui appartient. Et je ne sais pas, de nouveau, il y a des vérités comme ça qu'on a des fois de la peine à vraiment saisir. Et j'ai lu récemment une pensée de Derek Prince, qui est maintenant décédé. Et puis, il avait une manière d'écrire très directe, on va le lire ensemble. Ça m'a un peu bousculé. Il a dit comme ça, « Si vous avez été racheté par Jésus, vous ne vous appartenez plus. Hein, » Point. Bon, c'est clair. « Si vous vous appartenez, c'est que vous n'avez pas été racheté par le sang de Jésus. » Alors là, il dit, « Oh mince !» Vous ne pouvez pas à la fois vous appartenir à vous-même et appartenir au Seigneur. Le Seigneur vous veut pour lui. Si vous voulez vous accrocher à votre vie, gardez cela en mémoire, vous n'avez pas été racheté à un grand prix. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous appartenez à Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Si vous vous appartenez, vous n'appartenez pas à Dieu. Un peu clash, hein? Mais c'est ce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 6. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hein, comme Jésus nous a racheté corps, âme et esprit, entièrement. On lui appartient. On a de la peine à accepter ce genre de réalité spirituelle. Je lui appartiens. Alors ça veut dire que je dois arrêter de vouloir maîtriser ma vie, tout contrôler, et puis même m'inquiéter. Il est le boss, tu es le patron. Ma vie est à toi, tu l'as racheté à un grand prix. Et s'il l'a racheté à un grand prix, ça veut dire qu'on a de la valeur. Moi, je n'achète pas quelque chose qui a un grand prix pour le mettre à la poubelle, pour ne rien en faire. Si je mets beaucoup d'argent dans quelque chose, c'est parce que j'estime que ça a beaucoup de valeur. Et il nous a racheté au prix de sa vie. Donc, on a beaucoup de valeur à ses yeux. Donc, il nous conduit, il va prendre soin de nous. Pas besoin de s'inquiéter. Je dois aussi m'arrêter de vouloir tout garder pour moi. Puis finalement, je l'ai mis comme ça, même le fruit que je porte ne m'appartient pas. Et Jésus veut multiplier au travers de moi, et c'est uniquement possible en partageant. Hein, si on garde tout le cadeau, tous les cadeaux que Dieu nous donne, si on garde la vie offerte par Christ juste pour nous, il n'y a rien qui ne se multiplie. Elle n'est que partiellement utile. Alors je vais essayer de vous donner une petite illustration. On va imaginer que le salut, la vie abondante que Jésus nous donne, est représentée par une graine. Alors j'en ai mis plusieurs, peut-être certains vont savoir qu'est-ce que c'est, mais vous verrez que mon illustration n'est pas très bien construite, donc n'essayez pas de chercher quelle graine c'est. Merci. Donc Jésus donne, hein, la vie, donc nous donne cette graine gratuitement, par grâce, on l'a chanté. C'est une graine qui lui a coûté très cher. Et puis, si tu n'en fais rien, il ne se passe rien. Et c'est le cas de millions de personnes dans ce monde. Dieu leur donne la graine, mais ils n'en veulent pas ou n'en font rien. Il y a le potentiel de vie. Le potentiel est là pour eux aussi. Jésus est mort pour tous. Il a donné sa vie pour tous. Ils ont la graine, mais il ne se passe rien parce qu'ils n'en font rien. Donc cette graine doit être plantée dans notre vie, dans une bonne terre, pour ensuite pousser et donner du fruit. Puis l'arbre peut avoir de belles racines, peut donner de beaux fruits, et j'ai pris exprès un arbre qu'on n'a pas chez nous pour un petit peu vous faire envie. Des belles oranges là. Mais la question ensuite qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce fruit? Est-ce que... du jus d'orange. Voilà. Est-ce que je vais faire du jus d'orange? Est-ce que c'est juste pour ma propre consommation? Je vais faire du bon jus d'orange. Très bien. Est-ce que je vais prendre l'arbre en photo, mettre sur Instagram et puis Facebook, puis dire « Regardez mon bel arbre !»« Waouh, regardez ce que j'ai réussi à faire pousser chez moi, à Yverdon, avec le réchauffement climatique. C'est génial !» Ou bien est-ce que je vais porter du fruit plus loin? Et vous le savez tous, si personne ne vient cueillir les fruits qui sont sur un arbre, ils finissent par pourrir. Ils pourrissent soit sur l'arbre, soit par terre, mais ils pourrissent. Mon fruit ne sert pas s'il n'est pas transmis, s'il ne nourrit pas d'autres, s'il ne communique pas la vie plus loin. Donc ne plus vivre pour soi-même, c'est donner ce que j'ai reçu à d'autres. Et c'est un principe qui est présent dans toute la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait et donne dans nos vies est appelé à devenir fécond, est appelé à multiplier. Et ça rejoint très bien la bénédiction de Dieu pour Abraham dont on avait parlé il y a maintenant 6 semaines. « Je te bénirai, il a dit à Abraham, et je ferai de toi une source de bénédiction. » Je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. Donc si on prend chaque bénédiction que Dieu nous donne en gardant cette pensée, moi, je vous assure que ça a de l'impact, c'est immense. Il me donne la paix, mais je suis appelé à être un ouvrier de paix. Waouh ! Il me donne la consolation, mais je suis appelé à consoler ceux qui sont dans la détresse. Il prend soin de mes besoins matériels, je suis appelé à bénir en donnant de mon argent. J'ai reçu des dons, des talents, je suis appelé à bénir largement en les mettant au service des autres, etc. etc. On pourrait faire une grande liste. Et c'est dans ce sens que Paul dira au verset 18 et 19, « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc dans cette même idée, on est aussi appelé à réconcilier. On a été réconcilié pour réconcilier. C'est à l'écran, donc vous comprenez mieux. Là, réconcilier, c'est conjuguer, réconcilier, infinitif. D'accord ? Ça va ? Nous avons été réconciliés par Dieu, par Christ, et nous sommes appelés à réconcilier d'autres. Donc il nous donne le ministère de la réconciliation. Et met en nous, on l'a lu, la parole de la réconciliation. Et Paul était donc pressé par l'amour de Christ, et il réalisait vraiment ce que signifiait le cadeau d'être réconcilié avec Dieu. Vous savez, lui, il a eu une conversion assez foudroyante, mais il était habité par ce désir d'apporter ce message de réconciliation. Il ne pouvait pas juste l'avoir vécu et le garder pour lui-même. Il fallait le partager. Et nous ? Moi, je crois qu'on l'a gardé bien trop souvent ou trop longtemps pour nous. Et comme on l'a entendu la semaine dernière au travers du texte d'Ésaïe 54, nous n'enfantions plus. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas d'élargissement possible si nous ne sommes pas touchés dans nos tripes, afin de devenir aussi, nous, pressés par l'amour de Christ. Motivés non plus à vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Christ. Amenons la réconciliation avec Dieu à de nombreuses personnes. Et moi, je suis touché en voyant ce que Paul dit. Il parle du ministère de la réconciliation. C'est un service diaconal. C'est un service, c'est un ministère. On est bon pour parler d'un tas de ministères. Et le ministère de la réconciliation, je n'entends pas souvent. Est-ce qu'on est intéressé par le ministère de la réconciliation, les amis ? Et puis, il a déposé tout ce qui nous est nécessaire pour apporter la réconciliation. C'est-à-dire qu'il a mis en nous la parole de réconciliation. On a tout pour le transmettre. Alors, on va être un peu concret. Comment feriez-vous pour réconcilier deux personnes qui ont un problème, hein, qui ont un conflit ? Ça va être compliqué. Hein. Alors, je vais vous suggérer des points. Alors, peut-être qu'on va commencer par aller leur parler individuellement. On a besoin de comprendre pourquoi ces personnes ne se parlent plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes d'accord ? Donc, on a besoin un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puis la réponse va orienter la suite. Peut-être qu'il y a encore un conflit qui est très vif, donc on ne se parle pas parce qu'il y a un conflit qui est ouvert sur un point ou un autre. Peut-être que c'est une vieille histoire de famille, et puis du coup, on ne s'est jamais reparlé. Un truc hérité un petit peu. Peut-être que l'autre dit « Ah, il n'a jamais rien fait pour moi. » Alors, je ne lui parle pas. On est en conflit. Etc. Bon. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu l'histoire. Alors après, on va essayer de faire quoi ? On va essayer d'amener un éclairage différent, un point de vue un peu neuf sur la situation. Ah, mais s'il y a un conflit, ben, un conflit, ça se règle. On ne peut pas laisser un conflit comme ça éternellement. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Parce qu'un conflit ne va pas se régler tout seul. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Ou bien on peut dire, mais pour un conflit qui est hérité depuis longtemps, tu ne parles pas à cette personne, mais c'est dommage. Elle aura tellement de choses à t'apporter, mais tu crois que ça vaut la peine de te priver de ce que l'autre pourrait t'apporter juste à cause d'une vieille histoire comme ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avancer un petit peu là ? Ou bien, mais tu dis, elle n'a rien fait pour toi, cette personne, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse pour toi déjà ? Est-ce que tu lui as parlé une fois ? Tu lui as dit ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour toi ? Etc., etc. Donc on va essayer un petit peu de changer la mentalité. Et puis ensuite, on va essayer une première connexion, on va essayer d'offrir une possibilité de rencontre d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on organise un anniversaire, puis on invite les deux. Hein, ça, c'est pas mal. Hein. Et puis, ben voilà, si le travail a été bien fait, normalement, peut-être qu'ils pourront essayer une première rencontre, hein, de reparler un petit peu. Et puis, par la suite, ben, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent se redécouvrir, hein, peut-être enlever les vieux schémas, etc., pour qu'il y ait une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau qui puisse revenir. Et puis, on multiplie les occasions de contact. Et puis ensuite, peut-être qu'on peut être la personne qui va les aider dans leur démarche de réconciliation. Peut-être qu'on peut, on peut être là, les témoins, et puis les aider à formuler peut-être une demande de pardon, etc. Ça va ? Vous êtes assez d'accord avec ces étapes ?
Ouais, bon.
Essayez, hein, vous me redirez. D'accord ? Ça fait 20 ans que je fais de la réconciliation. Non, c'est pas vrai. Alors, mais si vous arrivez à réconcilier deux personnes, vous êtes content, non ? Quelle joie de voir des personnes qui étaient éloignées, qui ne se parlaient plus, reconnectées. Et puis quand c'est dans les familles, etc., de voir de nouveau des parents qui reprennent leurs enfants dans les bras, c'est tellement beau, c'est tellement plaisir. Mais pourquoi ne pas avoir la même démarche avec une personne qui aurait besoin d'être réconciliée avec Dieu, franchement ? Pourquoi on ne pourrait pas essayer ça ? Essayons de comprendre l'histoire. Pourquoi tu ne parles pas à Dieu ? Pourquoi tu ne parles plus à Dieu ? Pourquoi Dieu n'est pas présent dans ta vie ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire avec ça ? Peut-être que, ami, la personne va dire, mais justement, il n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi ? On peut lui demander. Hop, et hop, on connecte la personne avec Dieu. On peut prier. Peut-être qu'on l'invite. Peut-être qu'on l'invite au groupe de maison. On la met en relation avec Dieu. Et puis que la personne puisse découvrir Dieu d'une autre manière, un nouveau regard. Pas quelque chose d'hérité, pas ce Dieu qui punit, pas ce Dieu qui est méchant, pas ce Dieu qui s'en fout de qui je suis, de ce que je fais, etc. Non, un Dieu qui s'intéresse à toi, qui est vivant, qui est vrai. Et puis peut-être qu'on peut offrir la possibilité de la réconciliation, puis être là pour amener la personne à revenir pleinement à Dieu ou à venir pour la première fois à Dieu. Alors j'aimerais vous lancer un défi. Petit défi de la semaine, vous êtes d'accord de le relever ? Le message ne s'autodétruira pas, je vais marteler ce message. Non, apprendre à connaître l'histoire d'une personne en lien avec Dieu par une question du style « Quelle est ou a été la place de Dieu dans ta vie ?» Notez la question, et essayez de relever le défi cette semaine. Franchement, une personne. Et puis si vous avez un super témoignage, appelez-moi, on en parle la semaine prochaine, d'accord ? Hein, puis je vais aussi jouer le jeu. Vous verrez parfois que même une discussion comme ça permet un rapprochement ou va permettre à l'autre de cheminer. Parce que la personne n'a peut-être plus pensé à Dieu depuis 10 ans. Puis d'un coup, juste poser la question, ça remet quelque chose en route. Ah ouais, c'est vrai en fait, j'en étais où avec ça ? Dieu est puissant et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et j'aimerais aussi encourager peut-être quelqu'un ce matin qui lui-même, dans ce lieu, n'est pas réconcilié avec Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. Puis tu es là, puis tu dis, ah, c'est joli de vouloir réconcilier les autres, mais effectivement, il faut être réconcilié soi-même avec Dieu. Et j'aimerais t'encourager ce matin à oser lui parler, à oser revenir à lui. Peut-être qu'on pourra prier pour toi à la fin, si tu le désires, à la fin de ce culte. Troisième chose, donc, troisième point, être ambassadeur pour Christ. Donc, Paul dit au verset 20... Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette fonction d'ambassadeur. On le comprend très bien dans notre contexte. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger. Donc c'est des gars, hein, moi j'imagine ça dans ma tête, mais je crois que j'en ai croisé quelques-uns, qui sont plutôt classe, des gars, des dames, plutôt classe, ils voyagent régulièrement. Hein, si vous allez à l'aéroport, ils ont même leur file. Hein, il y a une file pour les diplomates, pour les représentants, etc. Donc ça, déjà, ça, je trouve ça juste génial, quoi. Hein, à un moment donné, on a les bébés, ça aide un petit peu, mais non. Donc c'est, voilà, il y a quand même une file réservée pour eux. Et puis, ils connaissent bien sûr les valeurs et la politique de leur pays. Ce sont d'habiles communicateurs, généralement, plutôt à l'aise ou doués dans les relations, ce qui est nécessaire. Mais on peut avoir d'autres ambassadeurs. Hein. Aujourd'hui, des stars deviennent des ambassadeurs d'une marque, une marque de vêtements, par exemple, ou alors d'une fondation à la cause très noble. Hein, puis ils sont les ambassadeurs de la cause. Et puis, pour nous aussi, on devient aujourd'hui des très bons ambassadeurs pour beaucoup de choses, puis vous vous rendez peut-être même pas compte, à travers les réseaux sociaux. Hein. Je me suis même surpris moi-même, j'ai été voir un match de hockey la semaine dernière. D'ailleurs, en rigolant, je suis arrivé sur le stage, là c'était à Yverdon, dans les gradins, et puis il y avait une ligne de chaises les mêmes qu'à l'escale. Les mêmes, les amis. Donc il n'y a pas que chez nous, hein, les chaises comme ça qui font mal. Hein. D'accord ? Il n'y a pas que chez nous. Mais le truc, c'est que j'étais venu pour me détendre, quoi. Donc quand j'arrive et que je vois les chaises, je dis « Oh non, ah non, mais c'est bon, je vais voir du hockey, c'est bon. » Et puis, je me suis surpris moi-même, en fait, à partager l'événement sur Facebook et puis à faire un petit commentaire. Je suis devenu, en quelque sorte, ambassadeur. Parce que j'amène le truc plus loin, parce que je représente, je dis « Oui, j'y suis allé, oui, c'est bien, oui, venez, etc. etc. » Donc, vous êtes souvent ambassadeur de plein de choses que vous ne vous rendez pas, même pas compte, et les marques, etc., hein, ils profitent de ça, au cas où. Hein. Alors, bon, sommes-nous ambassadeurs pour Christ ? C'est comme ça la question, maintenant. Sommes-nous ambassadeurs pour Christ ? Représentons-nous le royaume de Dieu là où nous sommes, dans nos relations, paroles, positions éthiques, valeurs ? Et peut-être que certains ont peur de cela. Peur de faire faux, peur d'avoir un mauvais témoignage. Hein, vous dites, ouais, mais si je dis que je suis chrétien et que je représente Christ, il faut vraiment que tout aille bien, hein, que je sois parfait. Moi, je pense que des fois, nos peurs, elles cachent autre chose. Parce que finalement, ça permet un petit peu que notre foi ne nous dérange pas trop dans la vie de tous les jours. Elle est bien à sa place et puis elle se peut s'exprimer à des moments bien définis. Ma foi peut s'exprimer le dimanche matin, ça va, c'est le bon cadre. Elle peut s'exprimer dans mon groupe de maison, là ça va, c'est des amis chrétiens, on est bien. Bon, chez moi, encore, dans mon lieu secret, à la limite, hein, mais je ne veux pas trop commencer à prier n'importe où dans la maison, hein, etc., etc., etc. J'espère que je vous dérange un peu en disant ça. Votre foi ou notre foi, c'est notre vie. Alors si elle ne peut pas faire partie de notre vie, il y a quelque chose qui devrait déranger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Donc Paul se prenait des coups pour l'évangile, il souffrait, il n'hésitait pas à mettre sa vie en péril parce que l'amour le pressait, il désirait que beaucoup soient sauvés, réconciliés avec Dieu. Il avait compris que chacun avait un rôle d'ambassadeur. Et il est bon de préciser encore qu'un ambassadeur ne peut pas représenter son pays dans son propre pays. Hein ? Parce que nous, les chrétiens, on est assez bons pour représenter Christ au milieu des chrétiens. Ça va. Mais c'est comme un ambassadeur qui représente son pays dans son pays, les amis. C'est la même chose. Ne plus vivre pour soi-même, c'est devenir ambassadeur pour Christ. Travailler pour lui, le représenter. Amener les gens à la réconciliation avec Dieu. Partout, à chaque instant, on est appelé à être ses ambassadeurs. Et dans ce sens, j'aimerais vous proposer encore quelques valeurs fortes que nous pouvons porter. Hein, je ne dis pas forcément de nouveau, je ne suis pas dans l'aspect en train de vous dire « il faut absolument parler ». On n'est pas dans l'idée de faire un acte religieux. D'accord ? Mon cœur, c'est qu'on soit percuté, puis j'en ai besoin aussi, percuté par ce que Jésus a fait, puis que ça nous pousse. D'accord ? Peut-être notre regard d'amour, aimer sans condition. Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les yeux, la Bible nous le dit. On peut juste aimer comme Jésus, voir au-delà des apparences. Aimer l'autre comme Jésus, ça montre qui est Jésus. Vous vous souvenez, Jésus, il est ému de compassion en voyant la foule. Hein, c'est beaucoup plus que de l'empathie. Ça vient chercher les entrailles. Ça le rebouille. C'est vos doigts, ça, non? Ça nous rebouille. Ça a rebouillé Jésus. Il a vu cette foule, il était renversé. Ça l'a saisi de voir une foule sans berger, de voir des personnes qui ne savaient pas où elles allaient, de voir les besoins des gens, de réaliser les histoires de vie derrière les gens, d'entendre leurs cris intérieurs. Il était vraiment ému de compassion. Voyons-nous cela. Je peux vous dire que l'amour agit vraiment comme un baume, quel que soit le contexte. J'ai toujours vu qu'en choisissant d'aimer et de faire grâce sur le modèle de Jésus, les relations, elles changent. Vraiment. C'est ça, être représentant. Peut-être juste avoir un regard d'amour. C'est aussi honorer les autres. Encourager positivement mon supérieur, hein, plutôt que de critiquer, j'encourage. Je remercie ceux qui me servent aussi. Moi, je dis souvent, mais avoir cet œil attentif aux personnes qui font un travail ingrat, par exemple. Les remercier, les aimer, les honorer. Considérer la valeur de chacun. Donner le meilleur, c'est aussi représenter Christ. Ce que je le fais pour Christ et au nom du Christ. Donc je donne le meilleur pour Christ dans mon travail. Je fais bien mon boulot, on peut compter sur moi, je suis fiable, par exemple. C'est une manière de représenter Christ. En étant authentique aussi. Je suis vrai, il n'y a rien de caché dans ma vie. Il n'y a rien de déguisé derrière mes actes. Hein, je n'ai pas un double langage. Je ne dis pas quelque chose, puis je pense autre chose. Ou bien je dis quelque chose à quelqu'un, puis derrière, avec l'autre collègue, je critique. Non, je suis vrai. Je parle avec vérité dans la vie des gens. Je dis avec amour. Je l'amène plus loin aussi. Être vrai. Et puis, cinquièmement, en amenant la joie. Hein, là où je passe, j'amène la joie, la vie, la bonne humeur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous amenez la joie où vous êtes? Moi, je vous encourage, vraiment. Vous savez, Dieu, il aime la joie, il aime rire, et il aime se réjouir. On a un Dieu de joie. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont de l'humour dans ce lieu, puis il y en a plein qui ont de l'humour, mais qui ne le savent pas encore. Hein? Donc, allez-y, Dieu aime ça. On pourrait ajouter un tas d'autres choses, mais c'est juste quelques pistes dans lesquelles le Saint-Esprit peut nous faire grandir, ou va nous faire grandir. Si vous lui demandez, si vous désirez être entré dans cette fonction d'ambassadeur, amenez la réconciliation autour de vous. Alors j'arrive à la conclusion. Ne plus vivre pour soi, mais pour Christ, c'est un changement fondamental dans notre manière d'appréhender la vie chrétienne. Cela vient ébranler nos habitudes, élargir nos mentalités. Et c'est aussi cela qu'on veut et que j'aimerais insuffler ici à l'escale. Je désire que nous puissions continuer à vivre cela à l'escale ensemble. Et je crois que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura encore des changements. Il y en aura encore tout plein. Parce qu'on ne veut pas être une église tournée sur elle-même. Moi, je ne veux pas que le culte soit juste tourné sur nous-mêmes. Accepter que le culte soit plus juste pour moi. Accepter que je ne sois plus le centre. Mais peut-être que le culte est adapté pour celui qui est là pour la première fois. Plutôt que de vouloir juste ma petite nourriture, j'offre mon aide, j'offre ma présence. J'ouvre mon cœur, j'accueille, je représente Christ. Waouh, ça c'est des changements. Peut-être que ça voudra dire qu'il faudra accepter que le format habituel de temps en temps soit un peu changé. Et puis, il y aura peut-être des petits godets en plastique à la Sainte-Seine, les amis. Ouais, des petits godets en plastique comme ça. Mais si ça peut contribuer, super. Et c'est aussi dans cette perspective que nous développons l'accueil. Hein, on aimerait connecter avec ceux qui nous visitent, parce que notre cœur est là pour les honorer, les servir. Mais c'est sûr que celui qui veut absolument que je prie pour lui à la fin du culte, il y aura un problème, parce que moi je vais me tenir là-bas, puis je vais prendre soin des nouveaux. Peut-être vous pouvez prendre rendez-vous, peut-être vous pouvez demander à quelqu'un de l'Assemblée de prier pour vous. Ce sera super, ça. On a parlé des générations dimanche dernier. Et la pensée est exactement la même. J'investis dans la génération qui me suit. Quitte à vivre quelques changements de style, Je préfère, moi, que la jeune génération s'attache à Christ, trouve sa place, plutôt que de rien ne change pour mon propre plaisir. Moi, si ça permet à une génération de suivre Jésus, je suis prêt à changer des choses. Et vous ? Donc, ne plus vivre pour soi, c'est permettre aux autres de rencontrer Dieu. Sans me préoccuper d'abord de mes propres besoins, sachant qu'il les connaît et s'en occupe. Et c'est tout ça qui va rendre notre voyage passionnant. C'est comme ça qu'on va rentrer dans notre destinée, la destinée que Christ a pour nous. Amen, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est peut-être un changement de paradigme, mais pourtant c'est présent dans toute la parole. La mort à soi-même, vive pour toi et non pour nous. Mais on crie à toi, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Seigneur, on aimerait tellement que notre vie soit comme on la prévoit. Seigneur, je prie que tu continues à nous bousculer, que nous puissions vivre des vrais changements à l'intérieur de nous-mêmes, que nous soyons pressés, que nous saisissions dans nos tripes ton œuvre, pour qu'on ne puisse plus accepter, qu'on ne puisse plus tolérer de rien en faire. Seigneur, je suis conscient qu'ici, il y a plein de gens qui font plein de choses. Et je te remercie pour eux. Je te remercie pour chacun. Mais Seigneur, conduis-nous plus loin. Ensemble. Qu'au travers de nous, beaucoup puissent être réconciliés avec toi. Quel cadeau d'avoir mis en nous le ministère de la réconciliation, la parole de réconciliation. Quel privilège. Seigneur, je veux aussi te remercier pour tous les changements qu'on peut apporter, les changements dans lesquels tu nous conduis. Seigneur, tu continues à nous préparer à cela, à nous les faire vivre ensemble, à prendre le tournant qui doit être pris ensemble, dans l'unité. Je te remercie pour cette communauté ce matin. Et je prie pour celui ou celle qui, dans ce lieu, doit être réconcilié, je l'ai dit tout à l'heure, avec toi. Seigneur, moi je ne connais pas l'histoire. Seigneur, je prie pour un changement de regard. Je prie pour que ta bonté inonde cette personne maintenant. Seigneur, que la fausse image qu'elle a de toi soit ôtée, détruite, et qu'elle ait ce désir de reconnecter avec toi, apprendre à nouveau à te connaître et à te faire confiance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, merci.